RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est bien de redémarrer la semaine avec les GG, avec les grandes gueules. On compte sur vous pour débattre aujourd'hui encore en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, Joël Dagosséry, la coach de vie. Bonjour ma chère Joël.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Bruno Poncé. Bruno Poncé, le cheminot de Vierzon. Bonjour mon cher Bruno.
Bonjour à toutes et à tous. Et puis je voudrais passer un petit bonjour à Maë qui est costumière pour le cinéma et qui fait un crowdfunding en ce moment parce qu'ils ont créé des housses pour protéger les costumes et les vêtements. Et là, ils font un crowdfunding sur We Do Good, qui s'appelle Où ce qui peut.
Une petite levée de fonds.
Voilà, c'est ça, une levée de fonds. Excusez-moi, je parle en anglais. Parce qu'en fait, c'est un investissement. Hein, parce qu'une fois que vous investissez dans l'entreprise, comme ça va marcher, hein, vous récupérez vos billes. Et donc, son site, c'est Ousco. Alors, Ous, c'est H2OS. .co et c'est très bien parce que c'est très éco-responsable et puis c'est des nouvelles façons de pouvoir protéger les vêtements en faisant attention à la nature. Et c'est quelqu'un de très gentil que j'ai rencontré sur le forum du cinéma à Paris, au Parc Floral.
Et puis un petit coup de pouce. Et puis nous sommes avec Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie.
Si on m'avait dit qu'un jour j'entendrais Bruno Poncé lire les mots crowdfunding et éco-responsable, je n'y aurais pas cru.
Oui, c'est vrai, je m'améliore. Hein,
ben oui. T'es prêt pour un vote Europe Écologie Les Verts, là.
Je voulais juste vous signaler que nous recevrons Karine Le Marchand tout à l'heure à 11h. Elle sera là pour nous présenter son documentaire sur 100 ans d'immigration en France. Il passe ce soir sur M6.
Permets-moi quand même de présenter toutes mes condoléances à la supportrice de l'OM qui est à côté de moi, Joël Dagosséry. Désolé pour ce qui s'est passé hier soir.
Oui, c'était un carnage.
C'est un carnage, c'est une humiliation, 5-0. Tu sais qu'en 100 ans de Classico, on n'avait jamais vu ça.
Je sais.
Alors, comme on a deux supporters du Paris Saint-Germain
et une supportrice de l'OM.
Ouais, mais il y a une pression de dingue pour réécouter ça.
Dembélé en un contrat. Ouais, il est passé. Ousmane Dembélé sur son pied gauche. Le crochet face à Medina. Et là, le but. Oh, le chef-d'œuvre d'Ousmane Dembélé. Le ballon d'or est bien de retour. C'est fini.
Et c'est terminé.
La fin de la correction infligée par les Parisiens aux Marseillais. La victoire 5-0.
Alors c'est vrai que l'OM a été surclassé. Voilà, et ce matin, ils étaient pas mal à voir le sourire ici. Il y avait Olivier, Bruno Poncé, Charles Magnin de l'équipe d'Estelle Denis aussi. Ouais. Bref, si vous.
Mais ouais, Joël,
maintenant que ça joue.
Joël, c'est un peu la Bernard Tapie de notre temps parce que comme Bernard Tapie, elle est née dans le 93, donc aux portes de Paris, assez loin de Marseille, et pourtant, elle s'engage aux côtés de la cité phocéenne. Ça, c'est intéressant comme parcours.
Il est temps que tu changes de club là.
Est-ce que tu vas investir avec le Crédit Lyonnais pour acheter une marque de sport?
Après, j'aimerais bien. Je pense que quand je
ça s'est mal
riche,
terminé. Hein.
Je rachèterai Marseille.
On va pas être
toute la ville.
On va pas être trop méchant avec Marseille parce qu'on y va. Les GG débarquent à Marseille.
Ah oui, on est des grands amis de la cité phocéenne.
Le jeudi 19 pour les municipales. Donc amis marseillais, on vous attend nombreux
de toutes les manières. Le foot et ce qui s'est passé hier au Parc des Princes, ça sera abondamment commenté sur l'antenne de RMC à partir de Vincent Moscato tout à l'heure à 15h. Et puis au fil de la soirée, bien sûr. Et sont tous les supporters parisiens et marseillais qui pourront s'exprimer au 32-16. Tiens, puisqu'on parle de Paris, on va s'intéresser aux élections municipales, on va s'intéresser à une candidate, elle s'appelle Sarah Knafo. Sarah Knafo, c'est la candidate reconquête aux élections municipales. Elle a été interrogée sur différentes petites questions concrètes sur Paris par Marc Fauvel sur BFM TV.
Si je vous demande le prix du pass Navigo mensuel à Paris.
Annuel 52.
Non.
Voilà. Le prix du pass Navigo annuel, 52 euros. Non, c'est 20 fois plus, madame.
Oui, alors, il coûte chaque mois près de, un peu plus de 90 euros. Donc on est loin des 52 euros. Annuel. En fait, vous souvenez du pain au chocolat à 10 centimes de Jean-François Copé. Vous souvenez également du ticket de métro à 4 euros de Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle vient de nous faire une copée, quoi, Sarah Knafo. C'est-à-dire que elle a totalement sous-estimé le pass Navigo. Alors le pass Navigo, pour ceux qui ne sont pas en Île-de-France, c'est ce qui permet de voyager sur le réseau francilien, métro, tramway, bus, RER. Elle est très loin du compte. Alors sur ses réseaux sociaux, elle a dit que c'était un gros lapsus. Après, elle s'est rattrapée en disant 50 euros, en fait, je pensais que c'était les 50 euros mensuels payés par le salarié parce que il y en a 50 qui sont pris, 50% qui sont pris par l'employeur. Enfin, bref, elle essaye de s'en sortir. Bref, elle ne connaissait pas le prix du pass Navigo. Est-ce que pour vous, c'est pas possible, c'est rédhibitoire? Est-ce que c'est une fois de plus exemple que nos responsables politiques sont totalement hors sol?
Est-ce que les responsables politiques doivent connaître le prix de la vie quotidienne, effectivement, Jean-Loup?
Ah bah direct, paf.
Ah bah ouais, paf.
Ah ouais, paf, comme
paf.
Ça.
Crac.
Jean-Louis
est venu pour autre chose. Ouais, parce que sinon
Karine
Le Marchand, hein.
Voilà, c'est pas faux. J'espère qu'on va l'entendre avant Karine Le Marchand.
Moi, je ne suis venu que pour Karine.
Laissez-le tranquille jusqu'à 11h.
Je resterai silencieux. Mais concernant c'est bizarre, moi je suis un peu surpris parce que vraiment je pensais que cette question du connaissez-vous le prix du ticket de métro ou du pass Navigo, on ne la posait plus tellement elle était attendue. Ça fait 40 ans qu'on la pose aux politiques.
Et à chaque fois, ils se font avoir.
Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, ils se font avoir. Parce que, en fait, je pensais que maintenant, on ne la posait plus parce que même les politiques qui ne prennent jamais le métro, en fait, avaient un conseiller qui leur avait fait une fiche. Oui. Et que, du coup, ils étaient blindés sur cette question qui est vraiment un marronnier. Et donc, on ne la posait plus tellement elle était éculée. Bah, comme quoi, en fait, c'est toujours les vieilles recettes qui marche. Et vraiment je suis très surpris parce que je trouve, indépendamment de toute considération politique, je trouve que globalement c'est une très bonne candidate, qu'elle fait une très bonne campagne, comme Rachida Dati d'ailleurs qui fait une excellente campagne, ou comme à gauche Sophia Chikirou. Voilà, on a trois femmes de trois tendances politiques différentes qui font trois belles campagnes sur le plan de la communication, et tomber sur une question à la fois aussi basique, aussi évidente, c'est vraiment même si tu ne prends jamais le métro, il faut aller prendre 5 secondes de sa vie pour aller sur Google
non, mais c'est
et
pas,
lui demander
c'est pas... question de savoir si tu prends le métro ou pas.
Voilà.
Pardon.
Et lui demander
c'est
le prix.
C'est une question, si tu veux être maire de Paris, la question du transport dans une grande ville est essentielle.
Surtout, c'est une question
tu dois connaître tes tarifs.
C'est surtout qu'une question de communication, que même si elle fait une excellente campagne, là, elle n'a pas préparé une question de base. Non, et ça me surprend. Ça me surprend de ne pas avoir préparé une question aussi basique.
Écoute, si t'as 30 ans, que t'es parisienne, parce que Sarah Tnafo, elle est née
en région parisienne.
D'accord, donc en Seine-Saint-Denis. Comme pas mal.
On en connaît d'autres.
Voilà, exactement. Donc, si t'as moins de 30 ans, que t'es né en Seine-Saint-Denis, que tu traînes à Paris et que tu connais pas le prix Navigo, excuse-moi, la campagne s'arrête pour moi. Parce que tu peux me raconter tout ce que tu veux. Non, mais c'est la base. C'est la base d'un jeune parisien. C'est la base d'un jeune banlieusard. D'un jeune banlieusard. C'est de se balader dans les métros et les RER parisiens.
Même plus en banlieue, hein.
Oui, mais peu importe. Mais même Paris. Mais même moi, j'habite plus en banlieue. J'habite plus en banlieue et je connais le prix du. D'ailleurs, il vient juste d'augmenter en plus.
Oui, il augmente chaque année.
Il a augmenté au 1er janvier, je crois, à 90 euros. Donc, ça fait pas mal de bruit aussi sur les réseaux. Donc, moi, je suis désolée. Tu fous quoi de tes journées? Tu fais quoi de ta journée?
Et tes conseillers, que font-ils aussi?
Oui, que font-ils?
Et en plus, t'es à la Cour des comptes. T'es censé connaître un peu les BVP.
Et vraiment, quand j'ai vu Marc Fauvel faire ça, je me suis dit, mais tu vois comme quoi le journalisme, ça tient un peu de choses. Quand on revient au basique, c'est-à-dire à investiguer les connaissances concrètes des candidats, tu te rends compte du vide. Sarah Tnafo, elle nous fait une super campagne, comme tu dis. C'est du plagiat. C'est du plagiat de la campagne de Monsieur Mamdani à New York. Elle a repris les couleurs, elle a repris l'esthétisme.
Enfin, c'est assumé,
campagne.
Donc c'est pas du plagiat.
Oui, oui.
Les mises en scène.
Oui, les mises en scène.
Elle s'est filmée dans le métro, c'est ça qui est drôle.
Dans le métro, il y a zéro créativité et il n'y a pas de travail de terrain.
Oui, on ne peut pas faire que de la com.
Excuse-moi, tu ne peux pas être maire. Maire, c'est le quotidien des Français. Ce n'est pas le président de la République. On parle du quotidien des citoyens.
Pour toi, c'est rédhibitoire. Elle devrait arrêter.
C'est terminé.
Terminé.
Bruno Poncet.
Après, on est face à ce qu'on voit depuis des années, en fait, des hommes politiques et des femmes politiques qui ne connaissent pas la vie quotidienne des Français et qui vont légiférer dessus en plus. Et qui vont après intervenir et puis après t'expliquer « Non mais l'électricité c'est pas cher, le gaz c'est pas cher. » Sauf qu'à la fin du mois, une fois que t'as claqué 90 balles, même si ton employeur t'en donne 50%, 45 balles juste pour te déplacer pour aller au boulot, normalement ça devrait être gratuit. Hein. D'ailleurs à une époque, ça avait été que ça serait gratuit. Hein.
Ça c'est autre chose.
Surtout quand c'est au boulot. Bah, mais c'est pas étonnant.
La moitié est pris en charge par l'employeur.
Par certains employeurs, pas par tous. Hein. Mais c'est la légalité normalement, mais bon.
Mais après, c'est éliminatoire, sujet. Comme le dit Joël ou pas?
Ah, moi de toute façon, ce qui est éliminatoire surtout, c'est ces comportements de tous ces hommes politiques. Moi je pense que d'entrée de jeu, on devrait demander hommes politiques, enfin à tous, hein, parce que là on va quand même pas mettre que sur elle. Elle, je veux dire, Olivier l'a répété, mais la plupart tu leur poseras la même question. Moi, j'aimerais bien savoir si Grégoire il a déjà pris le métro depuis qu'il est à Paris, en fait. Hein. Je veux te dire, en fait, c'est un sujet.
Je pense qu'il peut le prendre.
Grégoire,
parce que
c'est le candidat socialiste.
Et là, personne le reconnaît. Et c'est en ça que quelqu'un comme Ruffin interpelle vraiment les gens, parce que Ruffin, lui, il est toujours ancré dans le quotidien.
Tu sais pourquoi,
mais il parle de la femme de la femme de chambre.
Mais Bruno, c'est pour ça qu'il faut supprimer les voitures de fonction, par exemple.
On est d'accord là-dessus.
Il faut que ces gens-là prennent les transports, que nous on les prend. Il faut aussi faire en sorte qu'ils continuent à faire leurs courses, qu'ils aillent dans une épicerie et payer un Franprix, voir le prix des choses, se rendre compte que le prix du lait en ce moment a explosé, se rendre compte qu'il y a plus, tu peux plus acheter d'œufs en ce moment.
Mais t'as les œufs. Ah oui, ça, les œufs.
Non, mais c'est ça, c'est une réalité.
T'as comme des œufs.
La réalité, c'est Jean-Louis dit les conseillers.
Non,
mais
on s'en fout.
C'est les conseillers. C'est pas parce que t'as de bons conseillers que t'es pas hors sol.
Oui, mais regarde.
Tu me fais dire des choses que j'ai pas dit. Je te dis, j'ai dit qu'elle n'avait pas préparé une question basique.
C'est ça qu'il faut savoir.
Elle doit le vivre.
Non, mais ça, ok, j'ai essayé d'amener la lumière sur un autre.
Disant qu'elle doit vivre dans un HLM. Enfin, il y a
Non, mais regarde, l'autre fois, t'avais Larcher qui disait qu'ils gagnaient pas, il fallait les augmenter. Quand t'en as un, je sais plus lequel, un ancien ministre socialiste, je crois en plus, qui dit vous retirez pas ma voiture, j'ai pas conduit.
Daniel Vaillant.
En fait, t'as tous ces gens. En fait, un jour, t'en as un qui dit oui, mais 8000 euros, c'est pas assez pour vivre. Mais t'es sérieux? En fait, moi, je te dis, ils devraient peut-être
toucher leurs 8000 balles.
Mais tu leur donnes 8000 balles. Là, ok, tu leur donnes 8000. Après, tout le reste, ils ont pas. Et parce qu'ils payent pas le train, ils payent pas l'avion. Faut jamais oublier que les hommes politiques, quand ils sont élus, payent rien.
Alors, attends, on a Grégoire qui veut intervenir au 32-16. Et j'ai l'impression qu'il est plutôt sur la ligne d'Ago Seri. Bonjour, Grégoire. Grégoire qui est avec nous. Bonjour, Grégoire.
Vous êtes candidat à la mairie de Paris, Grégoire?
Grégoire, une fois. Grégoire, deux fois. Grégoire, trois fois.
Ah bah.
On va le retrouver dans un instant.
Joël. Non, mais il y a une différence, je trouve, avec Daniel Vaillant. C'est que Daniel Vaillant, bon, bah, malheureusement, il s'est habitué à un certain système, à un certain confort, à une certaine prise en charge. Sarah Knafaud, c'est pour ça que je dis que c'est encore plus inadmissible, c'est qu'elle n'est pas totalement. Ça fait pas des années, 20 ans, 25 ans, qu'elle est habituée à se faire conduire par-ci, par-là. Elle est jeune. Elle est jeune. C'est une francilienne. Et tu ne peux pas donner ça. Donc ça veut dire à quel âge tu as été déconnecté et à quel point tu es déconnecté de des choses assez basiques, en fait. C'est-à-dire le transport parisien, c'est quand même assez basique, puisque à Paris, la voiture, ça devient de plus en plus compliqué. Donc tu as beaucoup de franciliens et de parisiens qui
un million d'abonnés. Tu as un million d'abonnés au Paris.
Qui n'est jamais connecté à 30 ans. C'est terminé.
Surtout, ce qui est le plus fort, c'est que Sarah Knafaud joue la bonne élève. Elle veut se donner une image d'une politique qui connaît ses dossiers. Elle est très Sciences Po, moi, je trouve. Je connais mes chiffres et je donne un peu des leçons à tout le monde. Je suis jamais pris à défaut. Et là, elle est prise à son propre piège.
J'interviens parce qu'il me semble quand même quelque chose. C'est vrai qu'elle joue la bonne élève qui a travaillé ses dossiers, et, d'une part qui a travaillé ses dossiers et qui, d'autre part, n'est pas déconnectée. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui vous échappe là. C'est que dans le contexte actuel, où par exemple nos amis des Fennec 38 lancent une grenade dans un commerce à Grenoble,
on va en parler.
Eh bien, est-ce que vous pensez franchement que Sarah Knafaud, vu qui est son compagnon, vu les positions qu'elle défend, est-ce que vous pensez qu'elle peut encore prendre le métro en toute sécurité, avec son visage qui est quand même parfaitement connu? Est-ce que vous ne pensez pas? On est bien d'accord que Sarah Knafaud, parce que c'est que Sarah Knafaud. D'ailleurs,
enfin, demande-le en mariage. Il va nous parler d'elle.
Ah bah c'est bien, parce que quand on l'a reçue ici, ça s'est très mal passé entre elle et moi.
Non mais t'es sérieux? Alors en train de me la vendre comme collègue.
Depuis 20 ans,
on est dans la politique. En même temps,
je suis en train de te dire que Sarah Knafaud, à cause des positions qu'elle défend, ne peut plus circuler librement et prendre le métro dans Paris.
Il y a une mission, si tu te présentes en tant que maire, c'est de connaître le quotidien.
Oui, je suis d'accord.
De tes administrés.
Mais le quotidien de Sarah Knafaud, c'est qu'elle ne peut pas prendre le métro pour des raisons de sécurité.
Si tu ne peux pas le prendre, c'est de t'intéresser et de faire. Parce qu'elle a dû le prendre un jour quand même. Donc de faire une sorte de mise à jour sur, OK, quelles sont les dépenses d'un Parisien lambda, d'accord, t'as le transport, peut-être la crèche, la nounou, enfin des choses comme ça qui relèvent un peu de notre quotidien. C'est d'un minimum de t'intéresser. Moi, je veux bien connaître les chiffres que de l'AFD et des financements de l'aide au développement que la France envoie à l'Algérie ou autre part. Mais moi, ma vie quotidienne, c'est pas ces chiffres-là. Ma vie quotidienne, c'est quand je descends à la boulangerie, quand je vais chez le boucher, quand je prends mes transports, combien je paye la nounou ou l'école de ma fille. C'est ça ma vie quotidienne. Donc si tu veux être maire de ma, si tu veux administrer mon quotidien, excuse-moi, toi, ta première mission, c'est de t'intéresser à ça.
Je suis d'accord. Jean-Loup, en fait, c'est toi qui es déconnecté. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui,
j'ai
en France,
j'ai payé mon passe Navigo.
Quand on voit les élections, on voit bien qu'aujourd'hui en France, t'as 50 plus pas loin de 50% des gens qui partagent l'idée que Nafo. Donc quand t'es dans le métro, avec 50% des gens qui sont d'accord avec elle.
Oui.
Moi, quand je suis dans le métro, je suis avec
10% de gens qui peuvent lui mettre un coup de couteau.
Bah moi, quand je suis dans le métro, je suis avec 3% de gens qui sont d'accord avec moi. Je veux dire, je suis plus en danger que une info dans le métro, et je peux garantir.
Dans ce cas-là, qu'elle ne se filme pas. Parce que les gens qui ne sont pas d'accord avec toi ne vont pas t'agresser.
Mais c'est pas vrai, mais.
Jean-Loup, dans ce cas-là, qu'elle ne se filme pas en train de prendre le métro.
Exactement. Voilà.
T'as vu le Mastar? Personne n'a envie de venir.
Ah, bah, personne n'a envie de chercher.
Je suis
très sensible.
Sarah Knafo ignore le prix du pass Navigo. Est-ce que vous trouvez ça scandaleux? Est-ce que c'est la déconnexion de nos responsables politiques? Oui ou non? Oui, complètement, ils sont déconnectés, c'est ce que vous dites, à 70%. Tiens, un responsable politique qui est déconnecté et qu'on a déconnecté de l'Institut du Monde Arabe, là, c'est Jack Lang. Alors, l'affaire Jack Lang, est-ce que du coup, ça y est maintenant, c'est dossier clos, on ferme, en même temps,
ou on ouvre.
Jack Lang, il n'y avait pas de mise en examen ni rien. Il a démissionné parce qu'il y a eu une poussée médiatique aussi. À tout de suite pour en parler avec les grandes gueules au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Discussion, débat avec les GG, avec les grandes gueules. C'est parti sur les chapeaux de roue là, avec l'affaire Sarah Knafo. Je pense que ça va continuer toujours avec vous au 32-16, bien évidemment. En ce qui concerne le cas Jack Lang, on va en parler avec Joël Dagosséry, Bruno Poncet et Jean-Loup Bonamy. De ce qu'on peut lire, c'est que le cas Jack Lang était une question d'exemplarité et qu'il n'y avait pas d'autre issue possible pour celui qui est le futur ex-président de l'Institut du Monde Arabe.
Oui, à 86 ans, il va passer la main avant la fin de son quatrième mandat qui d'ailleurs devait s'achever à la fin de l'année. Je rappellerai qu'il a été nommé en 2013 par François Hollande et c'est des mandats de 3 ans et à chaque fois il a été reconduit. Il a été reconduit 2 fois par Emmanuel Macron, la dernière fois en 2023. D'ailleurs, un peu à la surprise générale parce qu'à l'époque, il y avait Jean-Yves Le Drian qui s'était porté candidat, mais visiblement Jack Lang était soutenu par une bonne partie des pays arabes, puisque l'Institut du Monde Arabe, il n'y a pas que la France qui décide. Bref, là, il est obligé de partir. Et Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, avait semblé soulagée. Elle a dit, je crois que Jack Lang a pris la seule décision possible. Ce sera la justice de dire pour l'ensemble des parties prenantes quelles sont les responsabilités. Mais dans son cas, il y avait aussi une question morale qui se posait de façon évidente. Alors effectivement, la justice commence à s'intéresser au cas Lang sur la partie fraude fiscale, puisqu'on a appris que sa fille avait lancé une société offshore en 2016 avec Jeffrey Epstein. Jack Lang visiblement avait mis un peu d'argent et donc il y a une ouverture pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, une ouverture d'une enquête par le PNF, le Parquet National Financier. On verra si ça aboutit. Est-ce qu'il faut aller plus loin et essayer de comprendre quels étaient les liens précis entre Jack Lang et Epstein. Epstein qui, rappelons-le, avait été condamné pour détournement de mineurs, pour agression sexuelle sur mineurs,
pour proxénétisme
et qui est mort en prison.
Alors, est-ce que cette affaire Lang-Epstein, elle est terminée ou pas, Joël?
J'espère que ce n'est que le début. Enfin, j'ose espérer que ce n'est que le début. Jack Lang, il est mentionné 673 fois dans les dossiers Epstein. Donc, j'espère bien que c'est pas juste. Il a démissionné et puis à la revoyure. Non, pas du tout. Pendant 15 jours, quand je regardais les titres de la presse, j'hallucinais. Les titres, c'était Jack Lang, il est étonné. Jack Lang, il est tombé de l'armoire. Et quand je regardais la presse étrangère, notamment anglo-saxonne et même suisse, eux, ils s'interrogeaient sur le système en place qui permet à un tel personnage public d'être en contact avec un pédocriminel. Et la presse française, eux, c'était le tombé de l'armoire, etc. Donc j'espère que tout le monde va se réveiller un petit peu et que tout le monde va chercher, pas que les juges, pas que le parquet, tout le monde, la presse. Et j'ai pensé très souvent au Panama Papers. Je sais pas si vous vous rappelez. Moi, je me rappelle parce que je venais d'arriver dans les grandes gueules.
Sur la fraude fiscale.
Exactement. Et il y avait 100 de 100 médias qui s'étaient mis ensemble pour décortiquer. Et la presse française en faisait partie. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait Le Monde, il y avait Cache Investigation. Ils avaient regardé chaque nom, chaque relation, ils avaient tout affiché et ils étaient en mode chasse à l'homme. Et là, quand je vois, j'espère que je vais entendre que la presse française notamment, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel point la France trempe dans ce truc, va se mettre ensemble et décortiquer ce dossier et qu'on sache s'il y a autre chose que Jacques Lang et jusqu'où ça va sur Jacques Lang. Donc non, pour moi, j'espère que c'est vraiment que le début.
Monsieur Bonamy.
Alors, non mais c'est assez intéressant parce qu'en fait, faut quand même, moi j'avais suivi le dossier d'assez près, comment est-ce que Jacques Lang s'est maintenu à la tête de l'Institut du Monde Arabe ? C'est-à-dire que à la fin de son troisième mandat, normalement c'était censé être terminé et on était censé nommer Jean-Yves Le Drian, qui était d'ailleurs soutenu aussi par d'autres pays arabes, et Emmanuel Macron avait pris cet engagement auprès de Jean-Yves Le Drian. Sauf que Jacques Lang s'est maintenu de force, il est resté à son poste, c'est-à-dire à un moment où normalement il n'était plus directeur de l'Institut du Monde Arabe, il continuait de signer des documents en tant que directeur alors qu'il ne l'était plus, donc ces documents n'avaient plus en fait aucune valeur juridique, et il a fait un travail de lobbying et de forcing pour en quelque sorte mettre le président de la République devant le fait accompli et être finalement reconduit en s'imposant de force, en disant bah non, je ne quitterai pas mon siège. Et en fait aussi l'une des raisons pour lesquelles on ne l'a pas débranché, c'est qu'on s'est dit, en fait, à l'Institut du Monde Arabe, avec la gestion de Jacques Lang, il doit y avoir tellement de cadavres dans le placard, tellement de problèmes d'argent, tellement de détournements divers et variés, que finalement, il vaut mieux pas qu'il parte, parce que sinon, on sera probablement obligé de lui intenter une série de procès. C'était ça, l'un des arguments qui a permis à Jacques Lang d'être reconduit, finalement, à la tête de l'Institut du Monde Arabe. C'est, oui, mais si je pars, en fait, on va découvrir tous les problèmes qu'il y a. Vaut mieux attendre en fait que je meure de vieillesse. Et après, une fois que je serai mort, vous vous débrouillerez avec ça. C'était la stratégie de Jacques Lang pour rester à la tête de l'Institut du Monde Arabe. Il payait pas ses notes auprès du restaurant de l'Institut du Monde Arabe. Là, on découvre qu'il n'était plus invité au Festival de Cannes parce qu'il payait pas ses notes d'hôtel.
Ça, on le savait déjà.
Voilà, mais c'était quand même un immense pic assiette.
Oui, mais Jean-Loup, tout ça, on le savait. Il y a aussi l'histoire des
bien sûr,
Smalto, où il a laissé une ardoise de 500 000 euros.
Voilà.
Pardon, moi je trouve quand même qu'il y a toujours deux poids deux mesures dans la façon dont on traite les personnalités politiques. François Fillon, il est tombé quand même pour trois costumes et l'emploi fictif de sa femme, trois costumes pour quelques dizaines de milliers d'euros. Là, on a quand même visiblement un personnage qui a passé sa vie à profiter effectivement des largesses du système et qui n'a jamais été vraiment inquiété ni par la presse ni par la justice.
Je vais te répondre
par Jacques Lang, parce que pendant très longtemps c'était le chouchou des médias, c'était le ministre de la culture, le seul finalement important de ces 30 dernières années, parce qu'il était en tête des personnalités préférées des Français pendant des années. Il y avait une espèce de complaisance à l'égard de Jacques Lang qu'on n'a pas eu vis-à-vis de personnalités un milieu médiatique qui est
Jacques Lang est l'incarnation de trois choses. Il est l'incarnation de la Mitterrandie et des années Mitterrand. Il est l'incarnation de la gauche caviar, voilà, la gauche caviar parisienne, Bobolande. Et il est l'incarnation du gauchisme culturel dont il est le ministre. Et d'ailleurs, il a institutionnalisé le gauchisme culturel et il en a fait une politique d'État. C'est ça, Jacques Lang. Et comme les milieux médiatiques sont quand même très pénétrés par le gauchisme culturel, évidemment, ils sont complaisant envers Jacques Lang, plus qu'envers François Fillon la Sarthe.
Grégoire qui voulait intervenir, vous savez, il y a quelques minutes sur Sarah Knafo, Grégoire, et il est toujours avec nous.
Il intervient sur tous les sujets, Grégoire.
Grégoire, il est grand gueule, donc il veut dire...
Grégoire, c'est le Christophe Barbier de
l'auditeur. Je suis polyvalent.
Mais ouais, voilà, Grégoire, c'est une GG, il veut réagir sur le cas
de
Jacques Lang.
On vous attend sur
allez-y,
PSGOM.
Grégoire.
Je suis prêt aussi. Vous transmettrez le message.
Allez-y, Grégoire, bonjour.
Bonjour, vous allez bien, les GG?
Ça va, mon cher Grégoire de Tourcoing. Bon. Alors, que pensez-vous du cas de Jacques Lang? Alors, dites-moi.
Moi, mon avis, c'est que les Français en ont marre d'être pris pour des cons. Je m'explique. Jacques Lang est payé par de l'argent public depuis des années. Et on doit être irréprochable quand c'est comme ça. Et il l'est pas. C'est trop branlant. Ces explications sont trop branlantes. C'est, il y a rien de clair. On prend pas de risque et c'est dehors. C'est dehors parce que il représente quand même normalement payé par l'argent public.
Là, il a démissionné. Là, il a démissionné.
Voilà. Donc je soutiens cette thèse. Maintenant, la justice va prendre le relais. Mais vous savez, le problème de ces gens-là, c'est que ils sont beaucoup trop au-dessus des gens moyens, en fait. sont complètement déconnectés de la vraie vie. Donc pour eux, pas payer une note au restaurant, c'est normal. Côtoyer des ordures comme ça, c'est normal. Donc voilà, dehors, et depuis bien longtemps, il aurait dû être dehors. Voilà mon avis.
D'ailleurs, ce matin, ce qui est intéressant, c'est de voir la une du quotidien Libération. Libération parle de la chute et fait 6 pages sur Jack Lang.
Mais tu vois, Libé, à la fois sur l'affaire Epstein.
Et puis revient sur.
Ils n'ont pas fait six pages sur Jack Lang dans toutes ces histoires précédentes. Tu vois, c'est ça.
Libé, le journal le plus Jack Langiste de France.
Là, je trouve qu'on tire sur une ambulance. C'est un homme de 86 ans. Bon, là, il y a un lynchage et c'est tout le monde hurle avec la foule, la meute.
Grégoire, on va voir avec Yannick, ce qu'il en pense, il est dans le Vaucluse. Yannick, il est fonctionnaire. Bonjour Yannick.
Salut les GG.
Bienvenue. Qu'en pensez-vous? Voyez, pour Grégoire, allez, on tourne une page et depuis longtemps, on aurait dû la tourner. Qu'en dites-vous, vous?
Bah écoutez, je partage tout à fait l'avis de Grégoire, comme je pense beaucoup de Français. Je pense que le traitement médiatique de l'affaire, il est assez insupportable dans la mesure où cet homme-là, je vais pas cacher mes mots, c'est quand même une pourriture. Lui, comme bien d'autres, il aurait dû être déjà inquiété par la justice bien avant, déjà par ses propos qu'il avait tenus. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a les casseroles. Après, on va pas se mentir, il y a une espèce de connivence, une protection entre les élites. Là aussi, je veux pas tomber dans le complot, mais les dossiers qui ont été dévoilés la semaine dernière, c'est la partie immergée d'iceberg. Je pense qu'ils se protègent tous et voilà, on va dire qu'on a fait plaisir aux gueux. On a le monsieur là qui était pas très gentil avec tout le monde, surtout avec les enfants, on l'a dégagé, un autre prendra sa place. Mais voilà, je pense que
pour le moment, c'est la seule. D'abord, il faut rappeler qu'il n'y a pas de mise en examen, c'est juste pression médiatique. Après, il y a le parquet national financier là qui est sur le coup, comme on dit, et qui essaie d'en savoir plus sur la fameuse société, le trust, l'argent qui a transité, si on a acheté des œuvres d'art
question,
ou pas.
La question que les gens se posent, c'est pas ça là, pardon. Mettons les pieds dans le plat, on est dans les grandes gueules. La question que les gens se posent, c'est est-ce que Jack Lang était dans ces histoires pédocriminelles avec Jeffrey Epstein, puisque il y a dans les mails des choses troublantes, notamment le fait que Jeffrey Epstein dit qu'il fait partie de l'équipe. On ne sait pas ce que ça veut dire l'équipe. Et puis il y a cette vieille rumeur qui tourne dans les médias depuis maintenant des années d'un ministre qui aurait été arrêté par la police marocaine pour des pas seulement. Souviens-toi, Kif Bertrand. Tu te souviens l'ancien
renseignement généraux
des renseignements généraux dans les GG nous l'avait dit. Alors, je ne sais plus vraiment quelle année, parce qu'on a fait 20 ans d'interview, et avait cité aussi l'histoire d'un ministre pédophile qui avait été arrêté par la police marocaine. Mmh. Et le nom de Jack Lang avait été cité à l'époque. Ouais,
c'est des rumeurs,
mais ça circule depuis très longtemps.
Je parle de rumeurs
qui ont été relayées par des ministres, un ancien patron de l'enseignement intérieur. Et je dis simplement que, comme l'affaire Epstein
n'ont jamais été étayées ni prouvées.
C'est dans la tête de tout le monde.
Mais quand même, Jack Lang, ça fait des années quand même que ça sent le soufre, et on aurait très bien pu s'en passer à la tête de certains d'un tel institut. On aurait pu nommer quelqu'un d'autre, mais pourtant on a choisi. Quand François Hollande l'a choisi, Jack Lang, on entendait déjà des rumeurs sur lui. Il aurait très bien pu choisir quelqu'un d'autre pour présider cet institut.
Alors moi, je me dis que le philosophe, il s'est perdu ce matin. Je crois que c'est l'arrivée de Karine Le Marchand, parce que dans la même phrase, nous parlait de gauchisme
culturel.
Et de l'autre côté, de dire que Jack Lang, c'est à gauche caviar, faut savoir, mon gars, parce que le gauchisme, Jack Lang, je crois que c'est jamais mis
non,
en dedans.
Déjà, il faudra
détendre là-dessus. Puis deuxièmement, moi, je trouve que, alors, au-delà du sang, du scandale sexuel, il faudra aussi aller chercher là-dedans. Moi, je trouve que l'argent qu'il a dû mettre dans sa société offshore, ça fait 45 ans qu'il est au service de l'État, Jack Lang. Donc cet argent, depuis 45 ans, c'est l'argent de l'État. Donc de faire de l'argent, et c'est pas le seul, mais de faire des placements offshore, net d'impôts, et avec l'argent de l'État français, moi, je me dis quand même, c'est quand même encore une fois, c'est un scandale, mais c'est un scandale politique, comme on en a partout. Et moi, je trouve qu'il va falloir quand même aller loin, et j'espère que, alors, aux États-Unis, ils vont se démerder avec ce dossier, mais j'espère que nous, en France, tous ceux qui sont touchés avec le dossier Epstein, et que ça soit financièrement ou ce scandale pédocriminel, j'espère qu'on va aller au bout et que ces gens-là vont être affichés, qu'on mettra leur nom. Et comme l'a dit Olivier, il a entièrement raison, Jack Lang, ça fait quand même 40 piges qu'on nous dit Jack Lang, il y a des trucs jamais nets avec lui, que ça soit financièrement ou autre, et en fait il est toujours en place. Et puis dès qu'il y a la fête de la musique, rappelez-vous, c'est le bon Jack Lang, la fête du cinéma, c'est Jack Lang et machin. Sauf que Jack Lang, ça fait un paquet d'années qu'il traîne là-dedans et qu'il prend de l'argent de l'État pour faire quoi? On sait pas trop, parce que derrière il met l'argent dans les sociétés offshore, et même sa gamine, elle est touchée. Je trouve que moi, le dossier Epstein, j'espère qu'il va être sorti, analysé par les journalistes et puis par la justice, comme ça on n'en saura plus, c'est que tout le monde va tomber une bonne fois pour toutes et qu'on reparte à zéro avec des gens qui sont un peu plus propres que
et
ça.
Et la question que je me pose, c'est, enfin, demandez à certains Français qui vont toucher une somme d'argent sur leur compte, vous allez voir, il y a Tracfin qui débarque.
Oui.
Tracfin, il essaye de savoir d'où vient l'argent, etc. Fois, c'est pour 10 000 euros.
Il y a des
milliers et des milliers d'euros et il n'y a pas un Tracfin. On attend que les dossiers Epstein sortent pour que le PNF se dise tiens, on va aller chercher.
Oui, donc Tracfin, c'est pas déclenché.
Enfin, moi, je me demande, franchement, c'est pour ça que je me dis, là, il y a un système qui est mis en place et j'espère qu'on va aller chercher quel est le système qui est en place qui permet tout ça.
Ce qui est intéressant, et je remercie Grégoire et Yannick d'avoir été avec nous, c'est que dans le dossier qui est très bien fait du quotidien Libération, vous verrez notamment, il parle des sociétés, de la ramification de différentes sociétés, des hommes d'affaires, des intermédiaires, des hommes de main. Et ce sont des centaines de milliers de dollars à ce moment-là qui transitent. Et à chaque fois, on retrouve une société dans laquelle il y a ou la fille de Jack Lang ou un homme d'affaires proche de la famille Jack Lang. C'est pour ça que le parquet national financier et peut-être Tracfin vont s'intéresser à ça. Je vous conseille le dossier de Libé. Merci à Grégoire et à Yannick d'avoir été dans les GG. 10h-20. Jack Lang démissionne. Est-ce que l'affaire est close, oui ou non? On va voir ce que vous en dites. Vous dites non, un peu comme toutes les GG. C'est-à-dire, en fait, ça ne fait que commencer. Dans un instant, le on s'en fout pas. Restez avec les grandes gueules. Vous êtes sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. C'est le canal 23 de la TNT. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4. Tout à l'heure, à 10h, sur RMC, RMC Story, dans les GG, dans les grandes gueules, on reparlera de ce qui s'est passé à Grenoble. Bon week-end à Grenoble. Là, c'est une magistrate qui est enlevée. On a aussi une grenade qui est lancée, enfin plutôt un engin explosif qui est lancé contre un institut de beauté. Alors contre l'institut de beauté, c'est revendiqué par une organisation criminelle qui s'appelle Fennec 38. Et ça a été filmé, hein, on l'a vu sur les réseaux sociaux, en disant « Nous avons des soldats qui aiment la mort comme vous aimez la vie ». Voilà ce que les gars ont, comment ils ont motivé le jet de l'engin explosif.
Comme des terroristes de Daesh.
Phrase de Ben Laden,
ouais,
reprise par Mohamed Merah.
Grenoble, la zone de non-droit total, on en parlera tout à l'heure à 10h avec vous au 32-16. J'ai le jeu aussi, vendredi prochain, c'est le vendredi 13. N'oubliez pas que vous pouvez gagner jusqu'à 30 000 euros à tous les coups, parce qu'on fera tourner une roue, il y a de l'argent à gagner sur toutes les cases de la roue, mais au maximum, ce sera 30 000 euros exonérés d'impôts, puisque c'est du gain de jeu. Il suffit d'envoyer 13 par SMS au 7-32-16. 13 par SMS au 7-32-16. Vous vous inscrivez et si vous êtes tiré au sort, c'est vous qui jouerez avec les grandes gueules vendredi prochain. Il est 10h moins le quart, c'est long, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Avez-vous envie, les GG, êtes-vous prêts à connaître le salaire de votre voisin de bureau? Les entreprises sont de plus en plus transparentes, en tout cas, sur les grilles de salaire. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël?
On s'en fout pas.
Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Bruno?
Non, on s'en fout pas.
Une directive européenne doit entrer en vigueur au mois de juin pour obliger les entreprises à donner des informations sur leur politique en matière de salaire. Des entreprises qui s'y mettent déjà, donc selon les informations de RMC, 20% ont pris la décision de publier des grilles ou des fourchettes de salaire dès cette année, d'après un baromètre du groupe de recrutement LHH. Autre indication de ce baromètre, 40% des entreprises prévoient désormais une enveloppe pour réduire les inégalités de salaire. Pour rappel, les femmes gagnent encore aujourd'hui 14% de moins que les hommes à temps de travail identique. Pourtant, Joël?
Moi, je suis pour qu'on puisse parler de son salaire librement au travail. Enfin,
t'as pas besoin d'une directive européenne.
Oui, mais est-ce qu'il faut obliger à la publication? Parce
que c'est... Alors, je crois pas que ce soit la publication de chaque... Non, je pense que c'est
égal.
Ouais, exactement. Donc il y a pas de, il y aura pas non plus
de transparence totale.
Mais c'est bien d'avoir un repère et de se dire, ok, ben en fait, là, je suis à ça, il y a ça, et qu'est-ce que je peux faire pour arriver à ça?
Une grille salariale.
Oui, bien sûr. Mais on sait très bien qu'en France, il y a quand même ce tabou sur l'argent, sur les salaires. On a l'impression qu'il faut tout cacher. Et moi, je trouve que ça devrait être beaucoup plus ouvert. Donc je suis contente.
Bruno.
Ouais, de toute façon, moi j'ai toujours été transparent là-dessus. Je pense qu'on peut, mais il faut pas que ça devienne une obligation. En fait, déjà, la plupart des entreprises, des grandes entreprises, moi je vois SNCF chaque année nous font un bilan en expliquant à peu près, tu vois, dans le bilan social, en fait, dans tout le bilan social de CSE, tu trouves ça. Moi, je vois pas en quoi ça deviendrait une obligation. Alors. Non, c'est un truc qui me paraît normal. Après, c'est vrai que nous, on a pas cette mentalité en France où l'argent est tabou. Aux États-Unis, à la machine à café, ils parlent de religion et de leur salaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai pas de travail là-bas. Ils m'ont toujours expliqué. T'es à la machine à café, le mec qui va te parler de Dieu et derrière, il va te dire, moi, je gagne tant, je fais tant, machin. Nous, en France, c'est hyper tabou. Parce que moi, je pense que ce qui est tabou, c'est pas celui qui gagne pas beaucoup, c'est celui qui gagne beaucoup. Et tu sais jamais pourquoi et jamais comment le mec peut gagner.
Ouais, mais parce qu'il y a la jalousie aussi.
La jalousie. Entretenu par les patrons qui s'amusent après à diviser les ouvriers entre eux, en fait. Hein.
Jean-Loup.
Non, ben Bruno a dit ce que je voulais dire, mais quand même une directive européenne, dites-vous. Oh, c'est intéressant. Non, déjà, ils ont que ça à faire de leur journée. Moi, je suis toujours un peu surpris de cette machine à pondre des directives. Et ensuite, ben, justement, on pourrait l'appliquer à Ursula von der Leyen, puisqu'il y a quelques années, quand je parlais de ses liens avec le cabinet de vaccins Pfizer, on me traitait de complotiste. Comme pour les dossiers Epstein. Et puis finalement, le New York Times, quand même journal de référence aux États-Unis, a amené toutes les preuves.
Quel rapport, là, on s'éloigne, non?
Eh ben, qu'on applique à Madame von der Leyen, qu'on regarde ses comptes d'un peu plus près. Voilà, tout simplement.
Il paraîtrait que Gerbier gagne plus que toi, Naïs. Moi, je dis ça comme ça.
Quoi? Ok.
On enchaîne.
Bon, les GG, André Santini, écoutez bien. 85 ans, est hospitalisé et candidat pour un 8e mandat de maire, où ça, à Issy-les-Moulineaux. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Bruno?
Non, on s'en fout pas du tout.
Jean-Loup.
On s'en fout pas.
Et Joël ?
On s'en fout pas.
Et ce donc en dépit de ses récents problèmes de santé, explique le Parisien. Oui, André Santini, élu il y a 46 ans dans la ville des Hauts-de-Seine, a annoncé sa candidature depuis l'hôpital où il est soigné en ce moment en raison d'une mauvaise chute et de complications médicales. Il explique donc à nos confrères refuser de laisser la main à un potentiel successeur, même s'il se déplace en fauteuil. Joël, pourquoi tu t'en fous pas ?
Écoute, moi je pense qu'il y a beaucoup de maires qui pensent que la ville leur appartient et peu importe l'état de santé qu'ils ont, ils peuvent occuper le siège. Bah, il peut se présenter, il est libre, mais j'espère que, je sais pas comment on dit, ici les Moulinois, je sais pas comment ça se dit.
Je crois les Lycéens.
Voilà, j'espère que les Lycéens vont élire quelqu'un de bonne santé.
S'ils le trouvent très bien.
Mais attends, s'il le trouve très bien, excuse-moi, quand t'es malade, tu peux gérer une vie telle que ici les Moulineaux, enfin.
Il dit qu'il gère les affaires courantes de.
Mais les affaires courantes, non. Mais on a besoin de quelqu'un qui soit. Mais qu'est-ce que. Mais
Jean-Loup.
En démocratie, il n'y a qu'un seul souverain, c'est le peuple. Et en effet, c'est aux citoyens de la commune de décider si pour eux c'est rédhibitoire ou non. Voilà, ça veut dire.
Donc toi, t'es pas pour la limitation de mandat dans la durée.
Moi, je suis contre les peines d'inéligibilité, contre les limitations de mandat. C'est au peuple de décider. Si le peuple, d'ici les Moulineaux, considère qu'il est trop vieux, il ne vote pas pour lui. Si par contre, ça ne leur pose pas de problème, qui vote pour lui, ça veut dire décider.
Bruno,
ici ou là-bas.
Bon, joli.
Après, ici, c'est ici. Sûr que c'est les gens qui vont voter, qui vont décider. Après que tu laisses quelqu'un faire autant de mandats, je trouve ça un petit peu anachronique. Parce qu'en fait, ça veut dire que le mec, il a pris la mairie dans les années 80, la ville lui appartient. Et aujourd'hui, il est mourant. Parce que bon, ça fait comme, enfin, il est mort, il s'est juste pété la gueule. Mais enfin bon, ça fait un paquet de temps qu'ils l'ont pas vu. Et l'autre fois, ils l'ont vu, il était hyper amaigri sur un fauteuil roulant. Je sais pas comment tu peux gérer. Moi, ça me fait penser à un homme politique, enfin, un président de l'Algérie il y a quelques années, qui malheureusement était en France à New York en train de se faire soigner, et qui soi-disant était capable d'être réélu dans son pays.
Non, mais c'est vrai qu'il y a.
Au Cameroun, avec un président, Paul Biya, qui est. Ouais. Donc qui a été.
Les dirigeants soviétiques. Ouais, je rappellerai Joe Biden, il n'y a pas besoin d'aller.
Ouais,
Joe
Biden. Ouais,
dans quel état il était aussi à la fin de son mandat, mais. Il avait bien envie de se représenter. Mais il avait quand même envie. Puis au milieu de campagne, on a quand même dit que c'est plus possible, on ne pouvait plus cacher le fait qu'il était très malade. Donc moi, j'adore qu'on donne des leçons toujours, aux Africains, etc.
Santini est un peu le Biden français. C'est le Biden du.
Mais alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a. Pour les présidents, ils ne peuvent pas faire deux mandats, enfin trois mandats de suite. Ils peuvent en faire plusieurs, mais
les
pas
maires,
de suite.
C'est limité.
Et pour les maires, ce n'est pas limité.
Après, ça se comprend dans un village. Des fois, tu n'as pas de candidat. Donc, des fois, le maire, il peut faire ça pendant 50 ans.
Mais je pense que ce n'est pas les candidats qui pourraient manquer éventuellement à ici, les Moulineaux. Hein.
Mais qui se présente.
Vas-y. Il est encore faiseur de roi, Santini. C'est-à-dire qu'à mon avis.
Ils ont peur de lui.
C'est dans le game.
C'est la grande,
exactement.
La grande fédération du 92.
Est-ce la fin du rêve américain? Les Français boudent les États-Unis de Trump. Les réservations dans le pays sont en chute libre. Moins 6% quand même l'année dernière, du jamais vu depuis le Covid. On s'en fout ou pas, Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Bruno?
Non, on s'en fout pas du tout, c'est un crève-cœur.
Joël?
S'en fout pas.
57% des Français prévoyant un voyage aux USA en 2026 hésitent même à le maintenir selon une toute récente enquête Ipsos. Et ce qui risque de ne pas arranger les choses, c'est cette nouvelle règle que vient d'imposer l'administration Trump. Désormais, les visiteurs de dizaines de pays, dont la France, seront obligés de communiquer l'historique sur 5 ans de leurs activités sur les réseaux sociaux. Bruno, pourquoi tu t'en fous pas ?
Parce que moi, j'avais prévu plus ou moins d'y aller en fin d'année. Là, j'avais peut-être une offre pour aller à New York pendant 4-5 jours. Et en fait, je vais pas y aller parce que, bah, déjà, c'était eux qui m'accepteraient pas. Parce que moi, s'ils prennent mes réseaux sociaux sur 5 ans, donc, c'est pas très maga. Hein. Moi, c'est pas très maga, mes réseaux sociaux. Donc, je pense que ça va être déjà un problème là-dessus. Puis, deuxièmement, moi, je vais pas. En plus, il y a plein de raisons, en fait, qui font que j'ai plus envie d'y aller. Il y a ce côté-là où, à un moment donné, ils vont fouiller dans tes réseaux sociaux. Je trouve ça, alors là, honteux. C'est pire que du McCarthy.
Donc, tu veux pas cautionner cela?
Non, déjà, pour commencer. Deuxièmement, il y a aussi un problème d'inflation. Aujourd'hui, la vie aux États-Unis est très, très chère. Nous, l'euro, il est à 1,10, 1,20 par rapport au dollar. Sauf que, là-bas, c'est très très cher pour tout le monde d'ailleurs, donc pour les Américains.
Bah, surtout à New York.
D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que Trump, il est en train de s'amuser à l'étranger, parce que s'il va un peu, il règle pas les problèmes chez lui, je pense qu'il va se faire allumer. Et puis surtout, moi, je n'ai pas envie d'aller dans ce pays en ce moment, parce que j'ai l'impression que c'est pas l'Amérique dont je rêve depuis des années, où j'ai été plusieurs fois. Donc, je vais attendre qu'il s'en aille, je vais attendre que ça redescende un peu peut-être. Et puis, je pense que ça va favoriser le Canada, hein, par exemple. Je pense que les gens vont aller au Canada, parce que ça sera moins cher.
Jean-Loup.
Non, mais moi j'adore, c'est l'inconséquence française. Je voyais en effet des interviews de Français qui justement pouvaient jouer au Jean Moulin du 7e arrondissement en disant « Oh, nous n'irons pas aux États-Unis, Trump est un fasciste ». Mais les mêmes Français, d'ailleurs, on leur demandait du coup où ils allaient aller et ils ont dit bah, « Du coup, on va aller visiter la Chine ». Alors oui, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire la Chine, on dit « Trump, c'est vraiment horrible », alors que la Chine, qui est loin d'une démocratie, elle enferme des centaines de milliers de Ouïghours dans des camps, elle stérilise de force les femmes, ou même les gens qui vont au pays du Maghreb, mais la répression des migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne dans les pays du Maghreb, à côté, l'ICE aux États-Unis, c'est de la blague. Parce qu'en fait, les pays du Maghreb font mourir les migrants dans le désert. Ils les renvoient dans le désert avec juste une petite bouteille d'eau, ce qui les condamne à une mort certaine. Et il y a plusieurs milliers d'Africains qui meurent dans le désert chaque année, relégués par les polices du pays du Maghreb. Mais ça ne dérange pas les Français. Le problème, c'est Trump.
Joël.
Moi non, j'irai volontiers. Maintenant, je rappelle
que ton chéri, l'as dit d'ailleurs, est américain, anglo-américain ou allemand-américain.
Allemand-américain. Ouais. Et oui, il surveille ma parole parce que effectivement, il surveille les réseaux sociaux. Donc, je suis pas censée critiquer Trump et pourtant, je vais le faire encore une fois, puisque il avait dit "Make America Great Again".
Ouais,
j'ai l'impression que la mission est pas top, dans le sens où l'Amérique, c'est aussi un soft power, c'est-à-dire qu'il y a une part d'affection qu'on a tous pour les États-Unis, où on se projette, etc. Oui. Et qui, malheureusement, il l'a entamé. Je pense que c'est pas définitif. Je pense que ça va revenir. Ça va revenir. Mais je veux dire, dans ce sens-là, je pense que la mission est pas remplie. Et effectivement, avec l'inflation, pareil, la mission est pas remplie. Donc, c'est pour ça que je dis que lui aussi, en fait, il joue sa carte au niveau international et qu'il faut pas sous-estimer aussi le fait qu'il soit peut-être un peu en danger dans son propre pays, enfin, électoralement.
C'est un médecin ici que j'ai croisé dans les couloirs et qui m'a raconté qu'il était parti à un colloque et que pour la première fois, alors que ça fait 40 ans qu'il fait des colloques aux États-Unis d'oncologie, il s'était retrouvé une heure et demie coincé à la douane, où on a épluché sa tablette, son portable, à regarder ce qu'il avait fait, ce qu'il avait posté, quelles étaient ses publications, si elles étaient en lien avec des adversaires, collègues médecins, américains et autres. Quoi, ouais. Okay. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, les soldats qui aiment la mort, grenade à Grenoble, à tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.